Et 13h30 minutes, un beau vendredi tout le monde. Je vous rappelle qu'on va vous parler saucisses et bière un peu plus tard dans l'émission avec la gang de la barrique aujourd'hui et Philippe, le gars qui en fume du bon. Et lorsqu'on dit qu'il en fume du bon, je veux dire qu'il fume probablement de la viande, hein, c'est ça. Il fait de l'excellente saucisse que j'ai eu l'occasion de goûter hier, une saucisse au Jack Daniels. Les détails, soyez des nôtres, autour de 14h10. C'est l'ouvrage « Prendre la parole », Marie-Ève Martel, avec quelques journalistes de La Relève qui font une réflexion autour de l'avenir des médias. Et je trouvais ça intéressant et pertinent de discuter avec Marie-Ève Martel aujourd'hui, l'une des co-auteurs de l'ouvrage, pour savoir là où on s'en va avec les médias pour les années à venir. On peut peut-être parler de crise. Moi, je parlerais beaucoup plus d'espèce de transformation, d'espèce de chaos qui mène à un ordre nouveau dans le domaine des médias. Marie-Ève Martel, bonjour.
Bonjour, Robert.
Merci, merci beaucoup d'être là. Le sujet, très pertinent, très actuel également. Avant d'aller plus loin sur, tu sais, de parler d'avenir à proprement parler, l'état de la situation, l'état des lieux, qu'est-ce que c'est? On est en 2021.
Ben en fait, c'est sûr que, par exemple, dans mon essai précédent, Extinction de voix, j'ai vraiment pris la peine de parler de la crise des médias régionaux. Et avec Prendre parole, que j'ai co-dirigé avec Gabriel Brassard-Lecourt, on avait envie de parler un peu du journalisme maintenant, parce que même si on parle beaucoup d'une crise financière des médias, je pense que les possibilités pour les journalistes et surtout les jeunes journalistes ont jamais été aussi là diverses et personnalisées. C'est possible maintenant pour un jeune journaliste ou un journaliste qui veut se réinventer, de maîtriser différentes technologies, de tracer son propre chemin. Il peut être son propre patron, il peut être pigiste, il peut travailler dans un média traditionnel aussi, comme ça se fait depuis des décennies et des siècles. Donc, je pense que il y a de l'espoir là, si on s'attarde vraiment à la qualité du métier, parce qu'il va toujours y avoir un besoin pour l'information. Puis c'est un peu ça qu'on a eu envie là, de parler là, avec nos co-auteurs là, dans ce petit collectif-là.
Oui, l'information aura toujours sa place. En autant qu'elle soit de qualité, qu'elle soit vérifiée, hein, qu'elle ne prête pas flanc à la critique, parce que ce qu'on entend souvent de ce temps-là, là, en temps de pandémie, hein, c'est les gens décrier les médias dits conventionnels. Je ne veux pas, tu sais, pour nommer le terme qui est le plus utilisé, on parle des médias de ce temps-là. Est-ce que vous constatez qu'actuellement, les médias conventionnels n'ont pas nécessairement la cote?
Ben effectivement, mais je pense que c'est vraiment dans un contexte plus large. Hein. Il y a quelques décennies ou même quelques siècles, les médias, les journalistes étaient considérés comme une élite intellectuelle. Et il y a un rejet en ce moment là des élites. Quand on parle d'élite, évidemment, ben, c'est la classe politique, par exemple. C'est les figures d'autorité. Il y a beaucoup de désinformation aussi qui circule sur Internet et sur les médias sociaux. Puis ces contenus-là sont traités de façon égale, sont présentés de manière identique aux contenus de qualité qui sont faits par les médias. Donc, effectivement, il y a une confusion aussi qui s'installe là, au niveau de la véracité des contenus. Et on l'a vu, puis ça, c'est en partie grâce à Donald Trump, hein, une nouvelle dont la couverture ne fait pas notre affaire, on peut la considérer fausse et puis ça va passer comme ça. Donc, c'est facile de rejeter le traitement journalistique d'une nouvelle parce que ça ne nous plaît pas, même si c'est fondé, c'est rigoureux, c'est vérifié.
T'sais, avant ça, on lisait, je vais vous donner l'exemple de la presse, on savait que la presse, c'était un journal sérieux qui embauchait des journalistes compétents qui disaient pas n'importe quoi et qui contre-vérifiaient leurs sources. Comment on fait aujourd'hui pour s'assurer que le média que l'on va suivre va nous présenter de l'information de qualité? Parce que beaucoup de ces médias-là n'ont plus nécessairement pignon sur rue. Ce sont des sites web, ce sont des blogs. Comment on va faire pour s'assurer de la véracité des faits dans ces médias-là?
Ben en fait, évidemment, il faut vérifier la source originelle de l'information. Est-ce que le média est un média qui est connu, qui est établi? Est-ce que il y a plusieurs sources qui sont citées aussi dans le reportage pour exprimer les faits? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est possible de retrouver l'information ailleurs, sur d'autres types de nouvelles ou sur des sites d'université, de spécialistes, de recherche? Bref, est-ce qu'on peut retrouver les traces du reportage ailleurs? Est-ce que c'est vérifié par d'autres sources? Est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce que le journaliste aussi signe son texte? Parce que des fois, on ne sait pas qui est l'auteur, mais un journaliste professionnel est fier de mettre son nom, son courriel et même sa photo sur ses articles. Et en fait, ça revient un peu à parler de ma contribution à D'en prendre parole, qui est un texte pour lequel j'interpelle là, les députés de l'Assemblée nationale et plus particulièrement Jean-François Roberge à titre de ministre de l'Éducation. Moi, je plaide en fait pour une meilleure éducation aux médias qui devrait passer d'abord par les écoles, donc les écoles primaires, secondaires, mais aussi plus grand public, parce qu'il y a une méconnaissance de notre métier qui ne cesse de prendre de l'ampleur. On imagine tous à peu près qu'est-ce que ça fait un journaliste, mais quand on se retrouve avec le produit fini, c'est-à-dire un reportage devant les yeux, on a tendance à oublier tout le travail qui est fait en amont, en coulisses, le travail de vérification, justement, de recherche qui mène au résultat final. Et c'est ça qui permet, en fait, de voir là, la qualité du travail journalistique. Là.
Tiens, on est en 2021. On peut-tu parler de confusion des gens? Lorsqu'on va regarder les télévisions en continu, il y a cette espèce de mélange entre l'actualité, l'information, puis le commentaire. Hein? Puis là, on arrive difficilement à faire la distinction entre qu'est-ce qui est la nouvelle, puis qu'est-ce qui est le commentaire.
Oui, vous avez tout à fait raison. Puis ça fait partie de la méconnaissance que je déplore un peu au fil du temps, puis pour laquelle je plaide pour une meilleure éducation aux médias, parce que ça arrive souvent, par exemple, que je reçois des courriels comme mes collègues de gens qui sont pas d'accord avec les propos exprimés par une source que je cite dans mon texte, mais qui me les attribuent. Moi, je rapporte les propos d'intervenants là qui ont quelque chose de pertinent à dire sur un enjeu, mais ça veut pas dire que je les endosse parce que je les rapporte. Mon travail, c'est de justement donner des points de vue différents autour d'un même enjeu pour que mes lecteurs puissent être en mesure de se faire une opinion à partir des faits que j'énonce. Mais mon opinion à moi, qui en veut vraiment, elle ne doit pas apparaître dans mes reportages. Par contre, la fin de semaine, le samedi, dans les journaux de la Coop nationale de l'information indépendante, j'ai une chronique où là, je me permets là, d'y aller plus d'humeur, évidemment. Je parle pas là, des sujets que je suis amenée à traiter comme journaliste pour éviter justement là, de semer une certaine confusion, mais c'est pas facile quand on n'est pas familier avec les médias de faire la différence entre tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important comme citoyen qu'on reçoive une éducation aux médias, ne serait-ce qu'un minimum, parce que ça englobe aussi beaucoup plus que ça. T'sais, toutes les pratiques en ligne, la détection de fausses nouvelles, par exemple, c'est des outils auxquels on va pouvoir se référer souvent, parce que, dans le fond, être une personne mieux informée, c'est être un meilleur citoyen, c'est prendre des décisions plus éclairées. Et, justement, c'est d'éviter de tomber dans des pièges aussi puis de croire n'importe quoi qui peuvent mener parfois à des conflits ou à des disputes. Là, on regarde sur Internet maintenant, là, je veux dire, le feu prend assez vite hein, en ligne.
Écoute, on pourrait se parler de ça pendant des heures et des heures, mais en terminant, là, OK? Le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent maintenant, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui vont lire au-delà du grand titre, là, puis au-delà de l'attaque de la nouvelle, là. Conseil qu'on peut leur donner pour s'assurer d'être bien informé. Puisque détenir l'information, c'est être riche dans la vie, hein, on le dit souvent. Les gens qui sont les mieux informés sont ceux qui vont le plus survivre dans notre société. J'en suis convaincu. Et ça, c'est de tous les temps, d'ailleurs. Alors, quel conseil on pourrait donner à ceux qui nous écoutent pour s'assurer qu'ils ont toujours en main des informations qui sont fiables?
Ben, je vous dirais que le principal truc, là, ça serait de s'informer à plusieurs endroits, à plusieurs sources. Au Québec, bon, c'est sûr, l'information régionale en a pris un coup dans les dernières années. Il y a beaucoup de titres qui sont disparus, beaucoup de journalistes qui ont perdu leur emploi. Mais l'écosystème médiatique, surtout en région, est encore une richesse. En Mauricie, vous avez la chance d'avoir plusieurs journaux, des radios, des stations de télévision qui produisent l'information de qualité. Puis des fois, ben, une même nouvelle peut être traitée différemment par deux médias professionnels. Donc, ça donne une autre façon aussi de consommer l'information. Donc, de s'abreuver à plusieurs sources, ça va permettre d'aller voir aussi les renseignements qui reviennent et qui sont donc vérifiés. Et en même temps, ben, ça vous permet de découvrir la richesse de l'écosystème médiatique régional, parce que c'est effectivement une richesse et il faut en prendre soin. Puis moi, ce que je souhaite le plus, c'est que les Québécois se réapproprient leur information.
Est-ce qu'on n'est pas dû pour un ordre professionnel du journaliste?
Oh, ça, c'est une boîte de Pandore, Robert. C'est un enjeu qui divise même notre profession en ce moment. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. la question d'un ordre, ça implique beaucoup plus que simplement dire il y a des journalistes qui ont le droit d'exercer, d'autres non. Il y a toute la question de la liberté d'expression, de la liberté de presse aussi qui gravite autour de ça. Donc, c'est quelque chose qui va mériter d'être étudié. Ça l'a été dans le passé et on est pas arrivé à s'entendre, mais avec l'aide, par exemple, du gouvernement fédéral pour soutenir les médias, peut-être l'aide du gouvernement provincial, il y a des critères qui vont être à déterminer pour voir qui a droit de toucher certains crédits d'impôt ou de certaines subventions. Donc, le débat n'aura pas le choix de se reproduire.
Merci beaucoup. À bientôt. On se reparle. Très intéressant, Marielle. Hey, c'est disponible à quel endroit pour ceux qui voudraient mettre la main sur Prendre la parole?
Ben, Prendre parole va être en librairie à partir de mardi le 20 avril. Et pour ceux qui ne peuvent pas attendre à sa sortie sur les tablettes, il va être disponible en ligne sur le site des libraires, entre autres.
Merci beaucoup. À bientôt, Marielle.